le temps d'un bivouac. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Yann Gallic. Vous suivez pour le pôle sud, ça va? Vous n'êtes pas frileux?
Non, j'ai pris une bonne polaire quand même.
Eh ben c'est parfait, vous restez avec nous et puis on vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.
Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainé, tu connais?
384 000 km.
Mais croyez-vous que j'ai pu regarder les paysages par le hublot?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac!
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Des températures pouvant descendre en dessous de moins 80 degrés, des vents dont la vitesse dépasse les 300 km par heure. Bienvenue sur le seul continent à ne pas avoir été colonisé par l'homme. En Antarctique, on ne fait que passer, personne ne s'installe définitivement. Parfois, ce désert blanc est traversé par des convois emmenés par une dizaine de personnes, des caravanes du froid qui peuvent avoir pour mission de ravitailler une station scientifique ou aller étudier le sol gelé qui renferme des informations sur l'évolution du climat passé de la planète. Alors comment se déroulent ces raids scientifiques menées loin de toute civilisation dans des conditions climatiques extrêmes? Nous allons en avoir un petit aperçu avec nos invités. Aujourd'hui, un glaciologue et un photographe nous racontent leurs expéditions en Antarctique.
Que c'est beau. Si beau que ça n'a pas l'air vrai.
Sur France Inter.
Mais vous ne m'écoutez pas, hein, vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Je vous présente donc nos deux guides pour cette excursion en Antarctique. Jérôme Chaplaz, glaciologue. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement à Grenoble. Vous êtes l'auteur de Changement climatique, les savoirs et les possibles aux éditions La Ville Brûle. Bonjour Jérôme Chaplaz.
Bonjour.
Donc vous avez participé à plusieurs expéditions en Antarctique et vous projetez d'y retourner prochainement. Vous nous direz quelles études vous menez sur le continent blanc et dans quelles conditions vous travaillez. Notre deuxième guide est photographe, François Lepage. Vous avez eu l'occasion en 2011 de participer à un raid de ravitaillement en Antarctique. Une expédition de plus de 1000 km dans des conditions extrêmes. Une exposition de photos que vous avez réalisée lors de cette expédition est actuellement présentée au Palais de la Découverte à Paris. Elle est à découvrir jusqu'au 31 août prochain. Bonjour François Lepage.
Bonjour Daniel.
Et puis un album mêlant bande dessinée et photos intitulé « La Lune est blanche » paraîtra en octobre chez Futuropolis. Un album que vous co-signez avec votre frère Emmanuel Lepage. En fin d'émission, après les glaces de l'Antarctique, nous mettrons le cap sur celle de l'Arctique. Nous prendrons des nouvelles de Charles Edrich qui effectue à la rame la traversée du passage du Nord-Ouest, ce passage qui relie le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord du Canada et de l'Alaska.
Il est impératif que l'Angleterre revendique de nouvelles terres. Et il reste encore, bien sûr, à élucider la question de ce fameux grand continent austral.
Milord, je doute que ce continent existe.
Je regrette, mais la plupart des scientifiques ne sont pas de votre avis, Cook.
Très franchement, Milord, ces messieurs ne retrouveraient pas leur chemin dans l'estuaire de la Tamise.
Dois-je en déduire que, si nous vous proposions le commandement, vous refuseriez catégoriquement de repartir à la recherche du continent austral?
Oh, si vous décidiez de me confier le commandement, j'établirai la carte de l'hémisphère tout entier, des tropiques jusqu'aux régions polaires. Quoi qu'il existe dans ces parages, c'est mon devoir de le découvrir.
Ouvrez les voiles !
La barre à tribord.
La barre à tribord, commandant !
Extrait du téléfilm James Cook de Lawrence Gordon Clark. Et cela vient nous rappeler que le continent antarctique n'a été découvert que très récemment par les hommes. En 1773, James Cook, premier navigateur à faire le tour du continent, il l'aperçoit, Jérôme Chaplaz, mais il ne pose pas le pied dessus.
Non, il ne pose pas le pied dessus. Il va falloir attendre d'autres explorateurs quelques décennies plus tard pour effectivement que l'homme mette enfin le pied sur ce continent de l'extrême.
Ouais, alors, on ne sait pas exactement, mais l'un des premiers, et peut-être même le premier, ce serait Dumont d'Urville.
Peut-être Dumont d'Urville, effectivement, qui s'est posé en terre Adélie, le prénom de sa femme, Adélie. C'était effectivement dans les années 1830, je ne me souviens plus l'année exacte, peut-être vous souvenez-vous.
Oui, enfin, je ne me souviens pas, mais je l'ai noté, 1838, effectivement. Voilà. Alors, ça veut dire quand même qu'au début du 19e siècle, personne encore n'avait posé le pied sur ce continent qui est vraiment peut-être la terre la plus inexplorée de la planète à ce jour.
C'était terra incognita et je pense que l'Antarctique aujourd'hui est encore en grande partie terra incognita. Il y a beaucoup à découvrir, on y travaille nous encore par exemple pour comprendre le climat même de ce continent de l'extrême. Mmh.
François Lepage, vous qu'est-ce qui vous y a attiré? Vous êtes photographe, hein, vous n'êtes pas scientifique. Mmh. Qu'êtes-vous allé faire sur cet enfer blanc? Parce qu'on a dit des températures parfois vraiment...
Je me le demande encore. En fait, moi, j'y suis arrivé un petit peu par hasard, hein, parce que j'ai jamais rêvé de partir en Antarctique. Enfin, disons plutôt, j'ai jamais pensé que je pourrais un jour partir en Antarctique, parce qu'effectivement, c'est quand même un continent qui reste extrêmement inaccessible si on n'est pas, je dirais, scientifique ou si on n'a pas une spécialité très, très particulière. Donc, j'ai jamais pensé que je pourrais un jour partir en Antarctique. Donc, ça a été un petit peu le fruit du hasard. Et je dirais que c'est un voyage qui m'a été proposé à la suite d'un précédent voyage que j'ai fait, en fait, donc dans les terres australes et antarctiques françaises, mais un petit peu plus au nord cette fois-ci. C'était donc dans les mers australes, à Kerguelen, Crozet, Amsterdam. Mmh.
Donc voilà, c'est une rotation. Ce sont ces îles qui sont... au niveau du cercle polaire arctique, mais quand même un petit peu moins proche du pôle sud.
Voilà, elles sont beaucoup moins au sud, un peu plus au nord, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Antarctique. Et donc, ce sont des îles qui sont gérées par ce qu'on appelle les TAF, les Terres australes et antarctiques françaises. Et donc, qui sont pareillement, comme l'Antarctique, totalement inhabitées, mais sur lesquelles la France a des bases scientifiques installées depuis une cinquantaine d'années.
Et lors de votre passage sur ces îles, à bord du bateau, vous faites des rencontres qui vous conduisent, une chose en amenant une autre, à finir dans un raid que vous allez nous raconter, ces expéditions sur le continent antarctique. Mais avant d'arriver sur le continent, il faut y accéder. Alors, on peut le faire par avion, mais c'est moins rigolo. Vous l'avez fait en bateau, notamment, et le bateau, on sent plus venir cette terre du bout du monde arriver jusqu'à soi. Ça se mérite, l'Antarctique. Alors, on va faire la traversée en bateau. Le bateau qui vous y amène, c'est l'Astrolabe. À quoi ressemble-t-il, Jérôme Chaplaz?
L'Astrolabe, c'est un bateau polaire. En fait, dans une vie précédente, il s'occupait de ravitailler des plateformes pétrolières dans l'Arctique. Et aujourd'hui, effectivement, il sert à faire le lien systématique entre Hobart, qui est un peu la Corse de l'Australie, du sud de l'Australie, et puis le continent antarctique, donc 2700 km de navigation. C'est un bateau polaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de quille. Il est capable de flotter sur la glace. Si la glace de mer le bloque, il peut en fait flotter comme un bouchon à la surface et ne pas être broyé par la glace de mer.
Un peu comme un noyau d'olive qu'on prendrait entre les doigts. Il s'échappe, il monte et ne se laisse pas écraser par la glace.
Tout à fait. Et la conséquence de ça, c'est comme il n'y a pas de quille, c'est un bateau qui bouge beaucoup. Et dans notre petit milieu, son surnom, c'est le Gastrolabe. Vous comprendrez peut-être pourquoi.
Ça va pas faire plaisir au capitaine de l'Astrolabe. Hein. Je sens que, Jérôme, vous allez avoir des problèmes quand vous allez remonter à bord.
François Lepage, avez-vous été malade, vous aussi, à bord de ce bateau?
Non, légèrement. Très, très légèrement malade. En fait, c'est vrai qu'on s'était préparé à cette traversée. Bon, après, on a beau s'y préparer. On avait pris du gingembre, on avait pris des bracelets chinois, on avait pris des patchs, enfin, tout ce qu'on pouvait imaginer contre le mal de mer. Mais c'est vrai que c'est un bateau qui roule beaucoup. Parce que, paraît-il, il revient très bien à son point d'équilibre. Il roule très bien, enfin effectivement il roule beaucoup parce qu'il n'y a pas de quille. Et donc quand il s'arrête dans les glaces, c'est toujours un grand soulagement.
Ouais, quand il se coince un petit peu, finalement on est content qu'il reste coincé par moment. La mer est-elle particulièrement agitée dans ce coin-là, Jérôme Chaplaz?
Ce sont les pires mers du globe. Il faut voir que l'Astrolabe en fait traverse l'océan Austral, qui est l'océan qui borde l'Antarctique, hein, donc, et qui fait le tour de l'océan Pacifique, à l'Atlantique, à l'océan Indien. Et ce sont les mers les plus agitées du monde, donc avec les 50e hurlant, les 60e...
Les 50e mugissant
et les 60e hurlant, voilà. Donc en tout cas, ça secoue beaucoup. On peut prendre des creux de 10-12 mètres assez facilement.
Ah oui, 10-12 mètres de creux dans cette mer agitée. Combien de temps dure le voyage?
Alors quand tout va bien, ça dure 5 jours. Et puis parfois, le bateau est malchanceux, il est bloqué dans la glace de mer. Et on a des collègues qui ont pu comme ça passer pratiquement un mois bloqué dans la glace de mer. Le temps que le bateau puisse se délivrer et puis retourner au port à Hobart ou atteindre enfin Dumont-d'Urville en Antarctique.
Alors, décrivez-nous l'approche. Plus on s'approche du continent antarctique, qu'est-ce qu'on voit depuis ce bateau, l'Astrolabe?
Alors, c'est la grosse différence d'utiliser le bateau par rapport à l'avion. L'avion, c'est comme vous partez en vacances, je ne sais pas, vous avez la chance de partir à Hawaï, vous quittez la France, voilà, vous débarquez dans les îles du Pacifique. Et ben, l'avion pour l'Antarctique, c'est pareil. Finalement, on débarque dans du froid et c'est un choc un peu trop rapide. Le bateau, on a le temps de se rendre compte qu'on va au bout du monde.
Et de voir le thermomètre descendre progressivement au fil des jours.
Même visuellement, voir le premier iceberg. La première fois qu'on voit un iceberg, c'est quelque chose d'incroyable. On l'oublie pas, ça. La première fois qu'on voit un paquet d'icebergs, et puis petit à petit, la glace de mer qui se développe autour. Et puis vient le jour où on nous appelle au pont et on nous dit, ça y est, on voit l'Antarctique. Et on a une barre blanche qui bloque l'horizon. Et voilà, c'est le continent de l'extrême. Cinq jours pour y arriver, je pense qu'il faut le vivre. Au moins une fois dans sa vie, quand on a la chance d'aller en Antarctique. Ouais. C'est une grosse différence par rapport à l'avion.
François Lepage, l'œil du photographe sur ces icebergs qui se découvrent progressivement et puis cette ligne glacée qui apparaît à l'horizon.
Ben c'est vrai que nous, on a mis beaucoup plus que 5 jours. Enfin, beaucoup plus, on a mis 12 jours ou 13 jours parce qu'on a été bloqué effectivement dans les glaces à proximité de Dumont-d'Urville. Et en fait, c'est vrai, moi je me souviendrai toujours de cette première nuit quand la mer commence à geler et qu'on découvre les premiers glaçons dans l'eau. C'était juste un moment, c'est vrai, très 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 impressionnant. Et les premiers icebergs, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est la lumière qui est dégagée par les icebergs. Parce que moi je pensais au départ que la couleur bleue des icebergs venait du reflet du ciel. Et en fait, même en pleine brume, les icebergs dégagent cette lumière bleue. Alors je crois que c'est dû à les ondes, c'est ça?
C'est l'absorption de la lumière par la glace qui effectivement laisse le bleu passer préférentiellement. Mmh. Mais on peut même voir parfois des icebergs verts, parce qu'en fait des algues se développent à leur base, et quand ils se retournent, on a des couleurs spectaculaires vertes parfois.
Et puis c'est surtout l'immensité des icebergs. C'est vrai que quand on est arrivé dans l'eau libre et qu'on a découvert ces icebergs qui sont des vraies montagnes, moi j'avais le sentiment de voguer sur une ville engloutie, quoi, dont on aurait vu juste les dômes des immeubles dépasser. C'est extrêmement impressionnant, quoi.
Alors on arrive sur le continent, vous posez le pied à terre ou en tout cas sur la glace. À quoi ça ressemble? Quelles sont les premières impressions? La première fois que vous avez mis le pied sur le continent antarctique, Jérôme Chaplaz?
Alors pour moi, c'était en 1988 et c'était donc au terme de ce voyage avec l'Astrolabe, la base du Mont-d'Urville, qui en fait n'est pas encore le continent, c'est une île. Dumont-d'Urville est posée sur l'archipel des Pétrels, donc c'est une série de petites îles qui est située à environ 5 km du continent. La première sensation, c'est d'avoir le mal de terre, parce qu'après 5 jours de navigation à subir ces mers un peu féroces, on se retrouve effectivement à trouver que la terre bouge beaucoup une fois qu'on a mis le pied à terre.
Mmh. Et vous, votre souvenir, François Lepage?
Moi, mon souvenir, c'était un peu une déception, avant tout, parce qu'on a passé donc 12 jours à bord du bateau, on a beaucoup attendu Dumont-d'Urville, on est arrivé à Dumont-d'Urville avec 17 jours de retard, et on a eu le temps de former comme une petite famille à bord du navire. On a passé une très grande soirée, la dernière soirée à bord, et j'ai raté l'arrivée à Dumont-d'Urville. Donc je me suis réveillé, on avait déjà accosté, ce qui était assez terrible pour moi, parce que j'avais vraiment envie de prendre des photos de l'arrivée à Dumont-d'Urville.
Bravo, tout ça pour ça. En tout cas, c'est honnête de le reconnaître. Vous allez nous raconter, vous n'avez pas été toujours aussi retardataire, vous avez parfois été là au bon moment, et vous allez nous raconter vos aventures sur le continent antarctique. Le glaciologue Jérôme Chaplaz et le photographe François Lepage passent se réchauffer dans notre bivouac sur France Inter jusqu'à 18h. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet, préparée par Sylvain Guilbault avec l'aide de Claire Barberis-Giletti. Nous sommes en direct. Pour nous laisser vos messages, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr et puis aussi, bien sûr, toujours la page Facebook du Temps d'un Bivouac sur laquelle nous allons mettre quelques-unes des superbes photos que vous avez prises, François Lepage.
Il n'y a pas de traces d'avion au ciel. Il n'y a rien. Ça n'a jamais été foulé. C'est une accumulation de strates, quoi. De strates de neige, de glace. C'est splendide.
François Lepage se confiant à son dictaphone au beau milieu de nulle part, en Antarctique, abasourdi par le silence émerveillé aussi.
En fait, ce qui est très impressionnant, c'est que j'ai retrouvé cette archive parce que je devais justement vous en envoyer. Et donc, je suis tombé là-dessus. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'on n'entend absolument rien derrière moi. Et ça, on a l'impression d'être dans un studio. C'est ça qui est vraiment impressionnant, quoi. Et ça a été pourtant des moments très rares en Antarctique, parce qu'en Antarctique, malheureusement, on est toujours dans le bruit des moteurs, des compresseurs, moi, j'en garde un souvenir très, très bruyant. Et quand je suis tombé sur cet archive, je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas un bruit. Mmh. Et c'est vrai que je dis, ça n'a jamais été foulé, parce que ça a été une des grandes surprises quand j'ai marché sur ce continent, qu'on a eu la chance d'avoir quelques pannes qui m'ont permis un peu de m'extraire un petit peu du convoi, puis de faire quelques photos, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand on est sur ce continent et qu'on marche à quelques mètres du convoi, on se rend compte que le continent est totalement sculpté par les vents. En plus, comme il neige très peu, c'est 2 cm, je crois, d'eau qui tombe par an. Donc, ce qui fait qu'il y a des strates de glace, de neige qui dessinent sur le sol des toiles, mais c'est magnifique. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'étais en train d'abîmer ce tableau, quoi. J'avais vraiment l'impression de marcher sur un tableau. Ouais. Et de prendre conscience aussi que là où on marche, personne n'a jamais marché. En fait, c'est parce que personne n'emprunte ces voies-là, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant.
Jérôme Chaplaz, ça revient aussi dans vos impressions, ce sentiment de marcher, d'explorer dans des endroits, sur des lieux que personne, avant vous, aucun humain n'a foulé.
L'Antarctique renvoie effectivement, comme tu le disais, des sensations très très particulières. Je pense que ça ramène à... Je le ressens comme un retour à ce qu'est la condition humaine quelque part. C'est très très fort. Je pense qu'on doit ressentir quelque chose d'approchant quand on va au milieu d'un désert comme le Sahara. C'est un désert minéral. Il n'y a aucune trace de vie et on comprend qu'on est finalement une petite poussière ici qui n'a pas sa place. Et je te rejoins complètement quand tu dis qu'effectivement le silence est très impressionnant. Mmh. Ce qui nous tient en vie, c'est du bruit, c'est un groupe électrogène. Tant qu'on a de l'énergie, on est en vie en Antarctique. Mmh. Quand le groupe électrogène s'arrête, il y a un petit moment d'angoisse. Et en même temps, moi, ce que j'aimais bien sur mes expéditions, c'était m'éloigner du camp, pareil, ne plus entendre le groupe électrogène, m'asseoir par terre et me laisser emprunter par cette espèce d'ambiance exceptionnelle.
Alors, quelle est la raison d'être de ces raids? Parce qu'on le sent, ce sont des expéditions très fortes, émotionnellement, humainement, à vivre. Mais vous n'y allez pas juste pour vivre ce grand frisson. Il y a un vrai but, même si finalement le frisson doit ajouter à tout ça beaucoup de bonheur. Mais vous y allez pourquoi?
Eh bien, pour ce qui me concerne et ce qui concerne mes collègues, c'est pour produire de la science, en fait. C'est pour comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre planète. L'Antarctique, mais la planète plus généralement, parce que par exemple mon travail consiste à produire ce que l'on appelle des carottes de glace, c'est-à-dire que ces strates de neige et de glace accumulées au cours du temps, on va les forer, les ramener en surface pour étudier l'évolution au cours du temps du climat, de la composition de l'atmosphère. Donc c'est un révélateur, l'Antarctique nous sert de révélateur de la condition du monde finalement au cours du temps.
Alors on va revenir, hein, c'est promis, plus en détail un peu plus tard dans l'émission à ce travail scientifique et effectivement à l'importance qu'il a. Arrêtons-nous aussi sur le raid auquel vous avez participé, François Lepage, qui était, alors là c'était presque de la logistique, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire de la science, mais de ravitailler les scientifiques qui se trouvent sur une base scientifique, Concordia, qui elle est vraiment isolée de tout. Très très loin.
Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est vrai que toute la difficulté d'avoir une base aussi loin de tout, et ça veut dire qu'il faut donc apporter tout ce qu'il faut, c'est-à-dire nourriture, matériel et surtout carburant pour pouvoir chauffer la base et maintenir en vie les 15 personnes qui séjournent donc durant les 8 mois que dure l'hiver austral. Ouais. Et donc il fallait amener par le RAID, c'est un convoi qui a été mis en place par l'Institut Polaire Paul-Émile Victor et en particulier par un homme qui s'appelle Patrice Godon, qui est certainement la personne qui a fait le plus de kilomètres en Antarctique et qui est le chef des expéditions polaires, je crois, son titre. Et c'est lui qui a mis en place donc ce raid qui est composé d'une dizaine de véhicules qui tractent en fait des containers, des cuves à gasoil et puis tout ce qu'il faut en fait pour maintenir en vie la base.
Alors vous évoquiez Paul-Émile Victor, hein, explorateur, écrivain, explorateur connu, vraiment célèbre, hein, explorateur polaire. Je vous propose de l'écouter. Il décrivait justement quelques particularités de la vie dans ces bases scientifiques reculées.
Dans la baraque, tout à coup, il y a eu un mouvement inusité, avec un tempo différent de celui que nous avions. Et je me rends compte que, étant de vieux polaires de la Terre Adélie, nous avions acquis un rythme excessivement lent. Le contraste nous a frappé à ce moment-là entre ceux qui arrivaient pressés de se mettre à l'ouvrage, pressés de réussir et bondissant d'action en action, tandis que nous prenions un temps assez long de réflexion, de mise en route dans le travail et d'exécution du travail. Et je crois que c'est là la caractéristique de la Terre Adélie, c'est que, étant donné la force du vent et la rigueur des éléments, on est obligé de prendre d'énormes précautions, de mesurer chaque geste et d'acquérir donc un rythme beaucoup plus lent que celui qu'on connaît à Paris en particulier.
Le rythme de l'Antarctique où tout se ralentirait dans ses bases, vous êtes d'accord, Jérôme Chaplaz?
Je suis en partie d'accord dans le sens où de toute façon les journées sont très longues, donc le temps est rallongé par le fait même qu'on profite vraiment des 24 heures de chaque journée. Le soleil ne se couche pas quand on travaille en été, du coup les journées de travail sont effectivement très très longues et en même temps on ne s'en rend pas compte. On est là-bas de toute façon pour travailler et on s'y consacre pleinement.
François Lepage.
Oui, la lenteur, c'est un rythme qui nous est imposé, je dirais, puisque, par exemple, sur le Raid, on roule à 9 km/h, entre 9 et 12 km/h. Donc, on a le temps de penser, on a le temps de. On n'est pas dans la précipitation, hein, on est plus dans la contemplation, la méditation. Hein, parce que, effectivement, on ne peut pas traverser ce continent avec rapidité. Donc, c'est le rythme qui est imposé, qui est la lenteur, effectivement.
Et en même temps, parfois, tout peut s'accélérer très vite. Parce que l'Antarctique, le travail en Antarctique est extrêmement tributaire de la météorologie. Et il suffit qu'on ait un créneau qui s'annonce de une heure de beau temps qui va permettre à un hélicoptère, par exemple, de s'envoler. Et paf, tout de suite, il faut être prêt. Mm-hmm. Prêt à sauter dans l'hélicoptère et aller conduire la mission que l'on doit conduire en très peu de temps.
Mm-hmm. Tout peut s'accélérer et aussi, tout peut, surtout lorsque on n'est plus sur ses bases, mais lorsque vous êtes en expédition dans ces raids, tout peut aussi tourner très vite à la catastrophe. On sent, vous le disiez, hein, la vie ne tient qu'à un fil lorsque l'on est en Antarctique, au milieu de nulle part, que l'on peut compter que sur le groupe et le matériel que l'on a emporté. On doit se sentir très vulnérable avec l'impression que tout peut très vite basculer, comme le racontait Yves Valette en 1951 sur la RTF. C'est un ingénieur topographe, Yves Valette.
On ne plaisante pas en raid. Quand tout semble très bien aller, une petite erreur peut entraîner la catastrophe en une demi-heure. Il suffit, par exemple, qu'on ait mal monté la tente parce qu'on était un peu fatigué, le temps étant encore assez beau, le coin de la tente s'envole, se déchire, tout le monde sort dehors, on surveille mal les chiens qui, pendant ce temps-là, mangent une caisse de nourriture, on se retrouve au bout d'une demi-heure avec 10 jours de moins de vivres, une tente à moitié déchirée, un sac de couchage envolé, on est pratiquement perdu. On en a pour 6 heures à vivre et c'est tout.
Yves Valette en 1951. Alors Jérôme Chaplaz, aujourd'hui, il n'y a plus de chiens, hein, ce sont des gros véhicules qui traînent ces containers sur des sortes de traîneaux pour avancer. Vous n'êtes pas nombreux, hein, vous êtes une dizaine d'hommes à bord de ces convois. Mais ce sentiment de vulnérabilité et que, alors ce ne sera peut-être pas les chiens qui vont manger la nourriture, mais par exemple vous parliez du groupe électrogène, ça vous est arrivé de vous sentir dans des situations un petit peu tendues ?
Ça m'est arrivé une fois de ressentir cette sensation d'être tenu par un fil. C'était en 1994, j'étais en expédition avec des collègues italiens dans la chaîne transantarctique, donc on était un petit camp, 7 personnes. Un site à peu près à 3000 mètres d'altitude sur le glacier. On vivait sous tente et on avait deux groupes électrogènes. Et un jour, pas de chance, le premier groupe électrogène est tombé en panne et le deuxième est tombé en panne dans la foulée. Donc on n'avait plus d'énergie.
Ça veut dire plus de chauffage ?
Ça veut dire plus de chauffage, mais de toute façon, on n'avait pas de chauffage. On vivait sous tente, donc on dormait dans des gros duvets. Alors, moi, j'avais 3 duvets enfilés l'un dans l'autre parce qu'il faisait moins 40 dans la tente. Et on avait le seul endroit où on avait un petit peu de chauffage, entre guillemets, c'était l'abri cuisine dans lequel la cuisine effectivement dégageait un petit peu de chaleur. Mais le problème, c'est que quand on n'a plus de source d'énergie, les batteries qui nous servent à communiquer avec radio avec la base, petit à petit se vident, on ne peut plus les recharger. Donc on a été dans une phase effectivement un peu limite où la base ne pouvait pas venir nous récupérer. On ne pouvait pas envoyer les hélicoptères parce que la météo était mauvaise. Nos deux groupes électrogènes étaient arrêtés et petit à petit, on était en train de vider les batteries de communication avec la base. Et notre chance, ça a été qu'il y a finalement eu un créneau météo qui a permis à deux hélicoptères de venir nous récupérer tous et nous rapatrier à la base.
Vous avez quand même commencé à envisager de vous mettre en mode survie dans cette situation ?
Oui, et je pense que là, ça aurait été probablement moins pénible que ce que nos collègues prédécesseurs dans les années 50 ont pu connaître, parce que le principe aurait été de se mettre dans les duvets, avec suffisamment de neige pour pouvoir produire de l'eau avec la chaleur du corps, de manière à pouvoir survivre pendant quelques jours.
Pour pouvoir boire l'eau de la glace fondue.
Tout à fait, et puis comme ça, on peut tenir quelques jours, et puis attendre que finalement un créneau météo permette aux hélicoptères de venir.
De combien de, on l'a dit, une dizaine de personnes, mais de combien de véhicules sont constitués ces convois, François Lepage ?
En fait, on tracte, le convoi était divisé en trois parties. Moi, en particulier, on avait deux autres caterpillars et on traînait la caravane vie, donc puisque nous, à part les conteneurs et la cuve à gasoil, on traîne donc une sorte de petite caravane dans laquelle il y a une cuisine, une chambre, et puis un petit lavabo et un atelier mécanique. Voilà.
Parce que vous, je vous ai présenté comme photographe, mais évidemment, quand il y a 10 personnes dans la caravane, on n'embarque pas juste un photographe qui est là pour prendre des photos. Voilà. Vous aviez un autre rôle.
Tout à fait. En fait, on a été embauché comme chauffeur, hein, puisqu'il n'y a pas de place pour les passagers sur ce raid. Donc, il était question qu'on ait une petite formation pour apprendre à conduire. Et en fait, comme on est arrivé à Dumont-d'Urville avec 17 jours de retard, on a sauté directement sur le raid et on est parti dès le lendemain directement.
C'est bon, tout est pareil. Bah, dis donc ce que tu veux. Ok, ben je vais partir. Reçu.
Donc là, on fout à fond les gaz. Troisième. Quand tu vois que ça se tend devant, tu lâches tout. Même le volant. Allez, hop. Là, il y a un vieux coup. Caravane devient un mouvement. Hop là!
C'est fini, c'est parti!
Quelle sensation! Donc c'est vous hein, là qu'on entend, c'est vraiment vrai. Vous, c'est pas une, c'est au volant de ce véhicule qui a l'air, au bruit du moteur, on sent que c'est un gros véhicule à chenille. On doit se sentir tout petit dans déjà ce gros engin, et en plus au milieu de ce continent à perte de vue, du blanc. Il n'y a pas de route,
C'est assez marrant parce que en fait, moi j'étais sur un des plus vieux engins du raid. Hein. C'est un des engins qu'ils allaient justement remiser à la fin de ce raid là. Et donc ça j'avais plutôt l'impression d'être sur une banquette de deux chevaux, voilà. Et c'est vrai que la manipulation est assez simple, on a juste à passer les vitesses et puis effectivement on peut lâcher le volant puisque de toute façon c'est le véhicule de tête qui guide le convoi. Donc en fait on ne fait rien dans la journée, on n'a absolument rien à faire. La seule chose c'est de ne pas s'endormir au cas où le véhicule de tête aurait à piler brusquement et pour pas en fait s'en plafonner dans le véhicule de tête.
Faut pouvoir freiner.
Voilà, faut pouvoir freiner.
Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre alors ? Puisqu'on attend de regarder le paysage.
On ne voit rien du tout. Enfin, on ne voit que du blanc en fait. On voit un grand désert de glace. Hein. C'est ni plus ni moins un désert de glace.
Mais ça doit être terriblement ennuyeux.
Effectivement, c'est en fait. Moi, je dis souvent que l'Antarctique, c'est quand je suis rentré dans l'Antarctique, on me demandait alors et j'ai dit, mais j'avais l'impression de pas avoir vécu ce voyage. Quelque chose qui reste très irréel. Et je dirais, si Baudelaire avait mis les pieds en Antarctique, il aurait dit que c'était d'une obscure clarté ou d'une obscure beauté. Quoi. C'est-à-dire que c'est en même temps, je veux dire, c'est absolument monotone, mais c'est en même temps extrêmement fantastique. Mais c'est vraiment ce qui joue en Antarctique, c'est l'imaginaire. C'est beaucoup plus l'imaginaire que ce qu'on voit réellement. C'est plus l'idée. Enfin, moi, je me rappelle que quand je conduisais ma deux chevaux comme ça au milieu de nulle part, j'avais plutôt l'impression d'être sur une piste de ski au milieu du Jura. Quoi. Et là, tout d'un coup, je me disais, mais tu te rends compte où tu es ? C'est de s'imaginer sur ce continent au milieu de nulle part. C'est plus l'imaginaire qu'un travail. C'est donc très difficile à photographier parce qu'il n'y a pas grand-chose à photographier. Quoi. Je dirais, on est très loin de tout. C'est un peu comme la mer. Quoi.
Il y a des mirages.
Alors, il y a des mirages, effectivement, puisque...
Ça ne se photographie pas, malheureusement, mais ça doit être...
Mais je l'ai photographié.
Ah oui ?
Oui, ouais, tout à fait, parce qu'on m'avait dit, donc au bout de 12 jours qu'on arriverait à Concordia, on a un GPS qui nous permet de connaître la distance au point d'arrivée. Et on m'avait dit, tu verras Concordia à 20 km de Concordia. Et je regarde à 30 km de Concordia, je vois un immense bâtiment, deux cylindres, les deux cylindres de Concordia dans le ciel. Donc je prends la radio et je dis, ça y est, on voit Concordia. Et les gars du raid me disent, non, c'est un mirage. Mais je le voyais, je l'ai photographié ce mirage. Alors je ne sais pas, c'est certainement un effet d'optique. Et donc j'ai photographié ce mirage. Et effectivement, ce mirage petit à petit a disparu. Et 10 km plus loin, on a vu apparaître dans le lointain et beaucoup plus petite la station. Et ça, c'était un moment totalement incroyable. Quoi.
Enfin, mais sur la photo, on voit rien.
Si, sur la photo,
on voit quand même quelque
mirage,
chose. Ah, oui,
parce que c'est un effet de réverbération, je crois. Hein.
C'est un effet qui est lié à la structure thermique de l'atmosphère, effectivement, au gradient de température qu'il y a entre la surface et la haute atmosphère, qui crée ce genre de structure. Oui, tout à fait.
Des hallucinations auditives aussi, parfois, en Antarctique. Certains explorateurs décrivent ça. Vous avez connu ça ou pas ?
J'ai pas connu ça. La seule sensation auditive très marquée dans mon esprit, c'est quand le groupe électrogène s'arrête.
L'angoisse qui va avec...
C'est une sensation très bizarre. On a l'impression tout à coup qu'on a coupé le cordon ombilical. Et là, on est suspendu. Et on se dit, bon, maintenant, il va falloir qu'il redémarre.
Eh bien, nous, on va redémarrer dans un instant, dans ce temps d'un bivouac. Vous allez nous raconter plus exactement les missions scientifiques, Jérôme Chaplas, que vous menez sur le continent blanc.
Position, plateau, Antarctique. Base, Concordia.
Ici, nous sommes dans la tente Epica, qui servait pour toute la machinerie, pour le forage profond qui a été terminé il y a 2-3 ans.
La glaciologue Catherine Ritz impliquée dans le forage Epica. C'est un extrait d'un reportage diffusé sur Universcience TV. C'est vrai que l'Antarctique, on l'a dit, c'est un endroit hostile. Les conditions climatiques sont extrêmes. Mais Jérôme Chaplaz, il n'y a qu'à cet endroit que l'on peut mener les recherches que vous menez. Pourquoi ces forages sont-ils si importants pour vous ?
Ils sont importants parce qu'ils nous permettent de documenter avec beaucoup de précision l'évolution de la température qu'il fait sur la planète et l'évolution de la composition de l'atmosphère. Si vous voulez savoir combien il y avait de gaz carbonique dans l'atmosphère il y a 100 ou 200 000 ans, le seul moyen dont vous disposez, c'est de récupérer de la glace qui s'est formée à cette époque-là, qui contient des petites bulles d'air, d'extraire le contenu de ces petites bulles d'air et d'analyser le gaz carbonique à l'intérieur. Donc c'est notre travail. C'est de reconstituer l'histoire du climat et de l'atmosphère sur des centaines de milliers d'années.
Le climat de notre planète s'est fossilisé en quelque sorte en Antarctique.
C'est une merveille de la nature. C'est un livre qui a été écrit par la nature avec chaque page représentée par une couche de neige qui s'est déposée en surface.
Mais c'est assez incroyable parce que ça veut dire que la neige qui est tombée sur ce continent il y a 100, 200, 300, vous espérez remonter même au-delà, hein, jusqu'à un million.
Plus de 1 million d'années, oui, tout à fait.
N'a jamais fondu. Elle est tombée, elle s'est entassée, elle s'est empilée et on a cette neige qui nous vient du fond des âges. C'est, neige d'antan, là, vraiment.
C'est une très grosse différence entre l'Antarctique et le Groenland, qui est une autre terre de glace. En Antarctique, la neige ne fond pratiquement jamais. Il y a très très peu de fusion sur la côte. Au cœur de l'Antarctique, à la base Concordia, la base franco-italienne, la température moyenne annuelle est de moins 53 degrés. Au plus chaud de l'été, on va avoir moins 20 degrés. Donc la neige ne peut pas fondre, effectivement. Donc elle s'accumule et puis elle finit, après des centaines de milliers d'années d'écoulement du glacier, très lent, par produire des icebergs qui vont finir par fondre dans l'océan austral.
Si bien que la couche de glace qui recouvre ce continent, parce qu'en dessous de cette glace, il y a de la terre, il y a un vrai continent physique fait de terre, contrairement au pôle Nord. Quelle est l'épaisseur de glace sur cette terre ?
En moyenne, l'épaisseur de glace sur l'Antarctique est de 2 km. Là où on a foré, donc sur la base Concordia, on a pénétré 3,2 km de glace. Et la zone la plus épaisse que l'on connaisse fait 4,7 km d'épaisseur de glace.
Donc jusqu'à maintenant, en forant dans cette glace, 4 km c'est vraiment énorme. Hein. En forant dans cette glace, on a réussi à remonter jusqu'à quelle époque ? Jusqu'au climat de quelle époque ?
La glace la plus vieille que l'on a pu ramener en surface, pour l'instant, date de 800 000 ans. 800 000 ans, et c'est déjà beaucoup. C'est déjà ce que l'on appelle dans notre jargon 8 cycles climatiques, 8 successions de glaciations et de périodes chaudes telles que l'on vit aujourd'hui. Et notre espoir aujourd'hui est de remonter au-delà, parce qu'il y a des vraies questions scientifiques qui se posent au-delà du million d'années, et je pourrais vous en dire un peu plus si cela vous intéresse.
Mais bien sûr, parce qu'un million d'années, enfin, il y a une quête, on se croirait dans Indiana Jones, là, vous allez chercher des glaces qui datent d'un million d'années. Et alors évidemment, ce sont les raisons de ces raids où vous partez vraiment à travers le continent pour trouver la glace la plus épaisse, la plus profonde, et ensuite il faut encore la forer. Alors pour atteindre la glace qui date d'il y a un million d'années, il faut forer profond.
Alors, il ne faut pas nécessairement forer profond. Enfin, là, on ne va pas rentrer dans une discussion technique trop importante.
Ouais.
Mais la grosse question, c'est que l'on ne sait pas où on va trouver cette glace en Antarctique. Et encore une fois, l'Antarctique, il faut imaginer que c'est 25 fois la France. C'est une superficie énorme, 14 millions de kilomètres carrés. On cherche une aiguille dans une botte de foin. On cherche quelque part sur ces 14 millions de kilomètres carrés un endroit où la glace se sera accumulée en bon ordre stratigraphique, couche après couche, et que l'on remonte au-delà du million d'années. Donc, c'est le défi dans lequel on s'est lancé aujourd'hui pour comprendre en fait une transition climatique que l'on appelle la transition du mi-pléistocène. Où en gros la rythmicité du climat terrestre a changé fondamentalement. Au lieu d'avoir des glaciations tous les 100 000 ans, on a des glaciations tous les 40 000 ans, au-delà de 1 million d'années, et on ne sait pas la raison fondamentale de ce changement majeur du climat terrestre. Mmh. On pense que le gaz carbonique a pu jouer un rôle là-dessus, et donc c'est pour ça qu'on va chercher cette glace vieille de plus d'un million d'années.
C'est une expédition, vous partez au bout du monde, et en même temps vous remontez. Un million d'années en arrière, c'est un voyage phénoménal que vous faites.
C'est un voyage phénoménal, et puis je dirais, pour corser un petit peu plus l'exercice, nous on s'est lancé dans une aventure assez fantastique qui consiste à inventer une espèce de machine à remonter le temps. On est en train de construire une sonde que l'on appelle Subglacier, en hommage à Blake et Mortimer, qui effectivement transportera un instrument que l'on est en train de développer, un instrument laser, à travers la glace, pour mesurer, strate après strate, en temps réel les signaux qui nous intéressent pour reconstituer ce climat et cette composition de l'atmosphère.
Parce que jusqu'à présent, vous prélevez les carottes de glace, puis ensuite vous les transportez, congelées évidemment, pour pas qu'elles fondent, dans les laboratoires pour les analyser. Là, ce serait un outil qui permettrait de faire, d'avoir l'analyse en temps réel sur le site.
C'est la grosse différence. Il faut voir que quand on fore à travers la calotte de glace, comme sur le site de Concordia, c'est une opération de très longue haleine. Il faut compter plusieurs années de travail. Et évidemment, si on se lance dans cette aventure et que l'on tombe sur un site qui n'est pas bon, qui n'a pas de glace suffisamment ancienne, c'est beaucoup de temps et d'argent pour pas grand-chose. Donc notre souhait, c'est de développer cette sonde qui permette d'obtenir l'information que l'on souhaite en une seule saison sur le terrain, en potentiellement 2 mois.
Alors, des recherches passionnantes qui nous emmènent, je le disais, au bout du monde et puis qui vous font voyager dans le temps. Et puis en plus, ce sont des recherches symboliquement très, très heureuses parce qu'elles se font en partenariat avec différents pays. C'est vraiment de la collaboration internationale qui se passe sur ce continent, ce sixième continent.
L'Antarctique est effectivement terre de science et terre de collaboration internationale. C'est fondamentalement exprimé par la base Concordia, qui est une base franco-italienne, hein, mm-hmm. L'Institut polaire pour l'Émile Victor, et puis le programme Antarctique italien, qui contribue à parité, à faire tourner cette base. Mais fondamentalement, quand on met en place les programmes de recherche en Antarctique, on pense toujours international. Moi, j'ai été amené à travailler avec des Australiens l'hiver dernier. Il y avait dans d'autres camps également des Chinois, il y avait une Japonaise, il y avait un Américain, il y avait plusieurs Danois. On travaille vraiment à l'international.
Ouais, on travaille à l'international et parfois avec les Italiens, ça pose quelques problèmes, François Lepage.
Raoul, tu peux lui demander où est-ce que ça fuit ?
Ouais. Chi con la caravana si è fermata e puoi raggiungere in caso se ti serve. La NAS chiede da se sai da dove perde l'olio.
Digli che ho guardato sotto perché sentivo puzza, ho guardato sotto circa metà tra il motore e tra il converter e le pompe.
T'as compris, Nanart?
Un peu.
Voilà. Bon, en gros, vous étiez dans votre véhicule. Vous nous disiez par la fenêtre, on voyait pas grand chose, et à la radio, on comprenait pas grand chose non plus. Hein,
non, bah voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un exemple type de la collaboration franco-italienne. Mais en général, ça se passe plutôt bien, parce qu'on avait avec nous un champion du chasse-neige. Apparemment, il était champion d'Europe de chasse-neige. Voilà. Et donc, il ouvrait la voie. Et c'est vrai que lui, comme il ne parlait pas français et qu'aucun des membres du raid ne parlait italien, c'est vrai que ça pouvait poser des problèmes. Mais de toute façon, ça se terminait toujours de la même façon. Va bene. Donc, tout va bien là-bas en général. C'est vrai qu'il y a une espèce de... Enfin, les gars du raid, il faut qu'ils réparent de toute façon et quoi qu'il en soit, puisqu'il faut les 10 véhicules. Éventuellement, on peut en laisser un sur le bord de la route, mais on ne peut pas en laisser 2. Donc, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une panne, les gars, ils descendent et ils réparent, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai qu'on a eu des problèmes, nous, à l'aller, parce que les températures descendaient progressivement. Plus on montait vers Concordia et plus les températures descendaient. Et donc, on a eu des problèmes parce que la livraison en carburant n'avait pas été bonne. Donc, il y avait des petits blocs de paraffine qui empêchaient les moteurs de tourner normalement. Et il fallait réparer. Donc, par toutes les températures, les gars, ils sont dehors et ils réparent les engins.
Et vous aviez pour mission, à part conduire les véhicules, vous aviez d'autres missions dans
votre logistique ? Alors, notre mission, c'était donc conduire les véhicules dans la journée. Et le soir, on devait faire le plein de carburant dans tous les camions. Donc, mon frère et moi, en alternance, un jour sur deux, avec un gars du raid. Donc, ce qui nous permettait aussi quand même de travailler, enfin de faire aussi notre travail, c'est-à-dire dessiner ou photographier.
Allez, dans un instant, on bascule d'un pôle à l'autre. Nous allons tenter de joindre Charles Edrich sur son téléphone satellite. Il nous donnera des nouvelles de sa traversée à la rame dans l'océan Arctique. Allez, à présent, on met le cap sur le passage du Nord-Ouest qui relie le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord du Canada et de l'Alaska. Passage du Nord-Ouest où nous attend, si tout se passe bien, Charles Edrich à bord de son bateau à rame. Bonjour Charles Edrich.
Ah bonjour.
Cela fait maintenant plus d'un mois que vous ramez. Vous êtes parti le 12 juillet dernier de Tuktoyaktuk, un petit village inuit. Combien de kilomètres parcourus depuis ce 12 juillet ?
Alors pour l'instant, j'ai fait 1700 km en ligne directe, plus avec les virages.
Et alors par quelle étape êtes-vous passé ? La dernière fois que nous vous avions eu, c'était il y a 15 jours. Depuis, que s'est-il passé pour vous, Charles ?
Alors j'ai fait une escale à Cambridge Bay, la première escale. Donc petit village de 1000 Inuits à peu près, et là je suis reparti. Depuis hier pour la prochaine étape, Joe Haven, un autre village, le dernier avant la sortie, qui est à 400 km devant moi.
D'accord. Alors, ce petit village, Cambridge Bay, vous y êtes resté, je crois, quelques jours parce que le passage, la glace n'était pas entièrement fondue, vous ne pouviez pas passer. Vous en avez profité pour sympathiser avec des Inuits, faire quelques rencontres.
Alors, les Inuits sont extrêmement sympathiques, très très curieux, donc par nature.
Oui, puis ils doivent être un petit peu surpris de vous voir arriver avec votre bateau à rames sorti de nulle part, non ?
Alors, ils sont totalement sidérés. En général, il y a deux choses qui les impressionnent avant tout. C'est d'où je viens. De venir du détroit de Bering, pour eux, c'est surréaliste. Et puis, deuxième chose, tout de suite, ils viennent voir le petit bateau. Et ce qui les intrigue le plus, c'est la rusticité de la vie à la bord. Comment je fais pour vivre dans un espace aussi réduit, sans chauffage? Et ça, à longueur de journée. Donc.
Oh ben, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être inuit hein, pour être impressionné et un petit peu sidéré de la traversée que vous êtes en train d'effectuer, Charles. Le moral est-il bon ? Ça fait plus d'un mois que vous êtes parti, vous n'êtes pas encore arrivé. Apparemment, ça va.
Alors là, je suis en pleine forme, donc le moral au beau fixe. Donc, maintenant, il y a un obstacle. Ah. C'est que pour l'instant, j'ai pas de glace. J'ai encore 500 km à peu près de mer très ouverte. Par contre, il y a un bouchon de glace absolument compact pour l'instant, de plus de 400 km dans mon nord. Et avec ce rameur des glaces, je peux avancer si la banquise est fracturée, en le transformant en traîneau et puis en avançant de bout de banquise en bout de banquise, je peux faire 100 mètres, 500 mètres éventuellement, mais 400 km de banquise absolument compacte, c'est pas possible. Et pour l'instant, c'est encore tôt en saison, ça peut évoluer, mais là il y a un obstacle qu'il faut franchir. Là.
Alors vous allez rencontrer cet obstacle dans combien de temps quand est-ce que ça va se présenter à vous, ce bouchon de glace?
Alors, en principe, 500 km, je l'ai fait grosso modo en une dizaine de jours. Mais je peux pas en même temps, je peux attendre, mais pas trop longtemps, parce que les températures, là je suis déjà avancé en saison, les températures commencent à baisser, par exemple il a neigé, hier il neigeait, et à partir de fin septembre, les températures commencent à descendre à moins 20, moins 25, il peut y avoir des pointes à moins 30, oui. Et le danger là, c'est de se faire prendre par la mer qui regèle complètement. Et dans ce cas-là, il faut attendre la saison prochaine. Ouais. Et c'est évidemment pas l'idéal.
D'accord. Donc,
pas l'idéal.
On l'a compris, vous n'êtes pas complètement sûr de pouvoir boucler votre périple cette année comme prévu. Merci, Charles Edrich. Pour en savoir plus sur votre aventure, on peut consulter votre site charlesedrich.com en lien sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. Bon courage à vous. Et puis, on va essayer de vous rappeler vendredi prochain pour la dernière du Temps d'un Bivouac. On prendra quelques dernières nouvelles avant de vous laisser repartir complètement. Au revoir et à vendredi, Charles.
Bien, avec plaisir, à vendredi.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, ce que fait Charles Edrich avec ce petit bateau, au-delà de l'exploit sportif que ça représente, c'est aussi de sensibiliser au réchauffement climatique et au fait que ce passage du Nord-Ouest, qui était avant entièrement gelé, et puis on l'entend qu'il est encore un petit peu en ce moment, mais est en train de s'ouvrir, est en train de fondre. Jérôme Chaplaz, en Antarctique, les glaces dont vous nous avez parlé, ces glaces d'antan, ces 2-3 km de glace qui surmontent la terre ferme, sont-ils menacés par le réchauffement climatique ?
Pas pour tout de suite. L'Antarctique n'est pas près de disparaître, et tant mieux pour nous, parce que ce serait plus 70 mètres de hauteur de niveau des mers. Donc ce serait un véritable drame, on va dire. Il y a potentiellement des risques sur la partie que l'on appelle l'Antarctique de l'Ouest. C'est la partie qui fait en gros face à l'océan Pacifique, où le glacier, en fait, le socle rocheux sous le glacier est en dessous du niveau de la mer. Et on a des indications que les glaciers ont tendance à accélérer de ce côté-là. Et potentiellement, on a, on va dire, 2 mètres de niveau des mers dans les tuyaux. Donc c'est une zone extrêmement surveillée. Pour le reste de l'Antarctique, on est à peu près encore tranquille pour quelques milliers d'années, a priori.
Merci, Jérôme Chaplaz et François Lepage. Alors je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Pour vous, Jérôme Chaplaz, il y a Le changement climatique, les savoirs et les possibles aux éditions La Ville Brûle. Et puis François Lepage, pour vous, alors on peut voir vos photos dans l'exposition Le Raid qui est présentée actuellement au Palais de la Découverte. C'est jusqu'au 31 août prochain, donc dépêchez-vous, hein, ça ferme bientôt. Vos photos seront aussi projetées un petit peu plus tard lors du festival Un visa pour l'image, début septembre à Perpignan. Et puis en octobre, donc là encore, c'est pour dans un mois et demi, paraîtra l'album BD et photos que vous co-signez avec votre frère Emmanuel Lepage, avec qui vous avez effectué ce raid en Antarctique. Le titre « La lune est blanche » et ça paraîtra chez Futuropolis. Merci à vous deux.
Merci à vous.
Merci à vous.
La routine.